Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le pédalo sur les ondes de Radio Campus Angers. On part ce soir du côté du Saumurois dans les bords de Loire avec le site atypique de la Grande Vignole, un site qui a été réménagé par la famille Filiatro. On a pu discuter avec Christina Filiatro, elle nous en dira plus dans quelques instants. Enfin, pour terminer cette émission, comme nous n'avons pas pu le passer hier et que j'y tiens, nous rediffuserons un numéro du côté des autrices, ce format court proposé par Mathilde Doisy de Radio Campus Paris qui vous présente chaque semaine une autrice classique invisibilisée ou oubliée. Ça sera donc pour la fin de cette émission et je vous propose de commencer sans plus tarder. Très belle émission à toutes et à tous. Nous partons aujourd'hui du côté des bords de Loire vers le Saumurois et plus précisément vers la Grande Vignole, un site atypique qui a été investi par la famille Filiatro, productrice de vin dont le domaine se situe non loin, en 1990. S'ils pensaient acheter seulement des vignes, ils y ont retrouvé puis réaménagé un logis seigneurial, un pigeonnier et des caves en partie troglodytes. Devenu le lieu de dégustation des vins du domaine, il est également possible de réaliser une visite sensorielle. Et pour discuter de tout ça, je suis au téléphone avec Christina Filiatro. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez commencer par nous retracer dans les grandes lignes l'histoire de votre famille et comment vous êtes venu à acquérir ce site de la Grande Vignole ?
Oui, il n'y a pas de problème. C'est mon papa qui a commencé en 1967 à la suite de son père qui possédait 6 hectares. Donc il a repris le domaine familial, il a agrandi. Et puis en 1990, donc il a été tenté par acheter des vignes qui sont au-dessus du logis seigneurial troglodytique de la Grande Vignole. Donc en fait, au départ, l'achat concernait uniquement les vignes. Et puis, on a découvert sous ces vignes ce site magnifique de la Grande Vignole, qui est donc un ancien logis seigneurial troglodytique. Et donc on a décidé de le restaurer. Ça a été un travail énorme de le restaurer et de le faire visiter, de l'aménager pour le faire visiter.
Avant de reparler un peu de la restauration et de comment ça a été aménagé, est-ce que vous pourriez décrire un peu à quoi ressemble ce lieu pour essayer qu'on puisse se faire une idée ?
En fait, c'est une partie troglodytique très spéciale du fait que justement, ce ne sont pas des troglos classiques comme on a l'habitude de les connaître, c'est-à-dire juste des cavités, mais c'est vraiment un logis qui a été. Ce sont des caves qui ont été aménagées par le Seigneur, c'est-à-dire qu'il y a des cloisons, il y a des fenêtres, il y a des cheminées, il y a des plaquages de suffon qui sont mis sur les façades, donc pour que ce soit plus une habitation qu'une grotte. Et le seigneur de la Vignole, en fait, habitait dans l'hôtel de la Vignole qui est juste à côté, à l'époque, au XVe siècle, et les gens qui travaillaient pour lui habitaient dans les grottes d'origine, et lui, au XVe siècle, au XVIe siècle, pardon, il a repris ce site pour en faire cadeau à sa fille, et c'est à ce moment-là qu'il a été aménagé en logis seigneurial et que le pigeonnier a été construit.
Et donc, au niveau de la restauration, alors comment ça s'est passé ? Et je suppose que ça a dû prendre un certain nombre d'années.
Du temps, d'autant plus que ça a été fait uniquement par les compagnons, qui sont les seuls à pouvoir travailler comme cela. Par exemple, le pigeonnier, qui a été la plus grosse partie de la rénovation, a été quasiment, enfin pas complètement refait, mais par exemple la toiture et la charpente ont été refaites. Donc la charpente, c'est une charpente bateau, hein, donc comme la forme d'une coque posée, 5000 ardoises coffines, hein, c'est légèrement incurvé, pour suivre la forme du pigeonnier.
À partir de quel moment ça a été ouvert à la visite et ça a été reconçu comme espace de dégustation ?
Alors ça a d'abord été rouvert au public juste pour la visite. Et puis il y a eu plusieurs choses d'essayer sur ce site. Il y a eu un restaurant notamment à une époque. Et puis ensuite, après le restaurant, c'est devenu l'espace de dégustation plus de notre domaine. Et là, on a changé encore d'organisation, enfin pas d'organisation, mais on a refait encore des travaux pour changer le lieu de dégustation.
Je suppose que vous nous avez raconté un peu donc, l'histoire du lieu. C'est également en menant ces travaux de restauration qu'en parallèle, il y a eu aussi un travail de recherche d'effectuer. Je suppose que vous n'aviez pas toutes les informations dès les premiers instants.
Non, on n'avait pas les informations dès le premier instant et on a toujours... Il nous manque toujours beaucoup d'informations parce qu'il n'y a pas beaucoup d'archives, en fait. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qu'on suppose, mais qu'on ne sait pas sur ce logis, malheureusement.
Et alors là, donc maintenant, vous y proposez, comme je l'ai évoqué, une visite sensorielle. En quoi est-ce que ça consiste exactement ?
Alors, j'ai pas tellement envie de vous raconter en quoi ça consiste parce que, en fait, c'est quelque chose qui se vit. C'est pas quelque chose qu'on peut raconter. Ce que je peux dire, c'est que il faut être très disponible dans son esprit. Et ce projet a été mis en place pour que les gens justement se passent un moment, qu'ils profitent de passer un moment quelque part dans un endroit déjà atypique. Et cette expérience est aussi très atypique. Très atypique, elle est complètement décalée, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de très sérieux, mais c'est quelque chose où on apprend des choses. C'est une expérience dans laquelle, au cours de laquelle, on apprend des choses quand même. On évoque l'histoire de France, l'histoire du logis seigneurial et l'histoire du domaine Filiatro, des vins et de la culture du sol.
Donc vous avez travaillé dessus, alors c'était avec une équipe québécoise qui est spécialisée dans ce genre de choses et ça vous a pris 2 ans, c'est ça, à mettre en place ?
Oui, ça a été long parce qu'évidemment c'était pas forcément très simple non plus de travailler avec cette équipe-là qui était loin, mais c'était un choix de ma part parce que j'avais vu déjà des choses qu'ils avaient fait et je savais que je trouverais ce que je voulais dans leur équipe parce que je veux quelque chose justement qui se fait pas tellement dans le coin et eux c'est leur spécialité de faire des choses qu'on ne voit pas ailleurs, donc c'était ça qui était intéressant.
Et là, ça fait combien de temps que c'est en place et je suppose que vous avez déjà eu de nombreux retours et que ça fonctionne bien.
Alors, ça plaît beaucoup, mais on a mis ça, on a fait l'inauguration juste avant le confinement. Donc, on n'a pas eu beaucoup de chance pour ça, mais maintenant, depuis que la vie est revenue à peu près à la normale, on a réouvert et les gens apprécient beaucoup. Ce qu'ils apprécient surtout, c'est que c'est ouvert absolument à tout le monde, c'est-à-dire que c'est pas axé que sur le vin, c'est pas non plus axé que sur l'histoire, et comme c'est pas quelque chose de très sérieux mais assez ludique, ça plaît même aux enfants.
C'est important dans un domaine comme le no-tourisme qui est en constante évolution de pouvoir proposer des choses qui soient différentes comme ça.
Oui, évidemment que c'est important parce qu'en plus, les gens se promènent quand même beaucoup en famille et toute la famille n'est pas forcément intéressée par les mêmes choses. Moi, c'est ce que j'ai constaté au cours des années passées à la Grande Vignole. Je voyais bien que systématiquement, quand il y avait une famille, il y avait des gens, des personnes de la famille qui n'étaient pas forcément intéressées par le vin et qui recherchaient autre chose. Donc, ça m'a amené à chercher justement un projet qui pourrait satisfaire tout le monde, c'est-à-dire non seulement ceux qui s'y intéressent, mais aussi ceux qui ne s'y intéressent pas. Et en plus, on a adapté aussi notre salle d'accueil, qui est beaucoup plus grande maintenant, et il y a un endroit pour une petite grotte où les enfants peuvent aller. Il y a une table et des chaises où ils peuvent dessiner, il y a des jeux, il y a des choses, pour que justement tout le monde puisse passer un bon moment, sans se dire il faut qu'on y aille parce que les enfants s'ennuient, ou des choses comme ça.
Puisqu'on parle de nos tourismes, on peut parler aussi un peu du vin, tout en rappelant que c'est bien sûr à consommer avec modération. L'histoire de la famille Filiatro, c'est depuis longtemps, c'est lié à l'appellation Saumur-Champigny, si j'ai bien compris.
Oui, alors l'appellation Saumur-Champigny, c'est vrai que mon papa a contribué beaucoup à faire évoluer l'appellation, mais on a aussi des vignes en Saumur, dans l'appellation Saumur, Saumur blanc, Saumur rouge, Saumur rosé. Et ce qui est important surtout pour nous aujourd'hui, c'est qu'on a travaillé une partie de notre domaine depuis très longtemps en culture bio. Et là, on est en conversion sur tout le reste. Donc ça veut dire qu'on est en conversion bio sur toute la partie Saumur-Champigny et on est en biodynamie sur le Saumur. d'appellation Saumur. Donc c'est un tournant aussi dans l'histoire de notre domaine, parce que ça change l'organisation du travail, c'est plus de travail, mais c'est aussi beaucoup plus intéressant, et c'est très intéressant, et c'est aussi pour préserver la nature et faire en sorte que nos vignes puissent vivre plus longtemps.
Est-ce que vous pouvez juste rappeler pour celles et ceux qui seraient peut-être un peu moins connaisseurs ce que c'est la biodynamie, la production en biodynamie ?
Alors la biodynamie, c'est, on peut dire pour vulgariser, que c'est un cran au-dessus de la culture bio. C'est-à-dire qu'en culture bio, on enlève tous les produits chimiques, on travaille le sol et on enlève toute la chimie. Et en biodynamie, on travaille avec le calendrier lunaire, et avec des préparations qu'on pulvérise dans les vignes au cours des différents traitements pour renforcer la vigne ou renforcer la plante. Enfin, il y a plusieurs choses qu'on peut utiliser, mais c'est surtout pour renforcer la plante et pour la protéger des maladies. Mais c'est des choses très naturelles qu'on utilise en toute petite quantité, comme des doses homéopathiques, qu'on mélange avec de l'eau qui vient du puits et qui est dynamisée et qui est pulvérisée dans les vignes pour certaines avant le lever du jour. Donc c'est quelque chose de très technique, mais c'est un peu comme on faisait dans le temps en fait.
Et effectivement, oui, comme vous l'avez dit, je suppose que ça change complètement donc les manières de travailler et de penser même le rythme des saisons.
Voilà, exactement. Et c'est aussi pour ça que c'est pas une décision qu'on peut prendre seule. Il faut qu'on prenne c'est une décision qu'on a prise avec toute notre équipe, parce qu'on a une équipe qui est très soudée depuis longtemps. Et donc c'est un choix qu'on a fait ensemble, parce qu'on peut pas décider tout d'un coup de changer de mode de culture si il faut que ça soit un changement de mentalité. Il faut pas que ça soit ça peut pas être qu'un changement d'organisation. Il faut que tout le monde comprenne bien pourquoi on le fait et soit motivé dans ce sens.
Et il n'y a pas eu de difficultés. Tout le monde était partant pour se lancer dans cette aventure.
Oui, tout le monde était partant. Tout le monde a été formé, a été trouvé d'ailleurs ça très intéressant, même si c'est plus de travail. On en a tous conscience, mais on sait aussi que c'est pour. Parce que de nos jours, on ne peut plus penser à travailler comme on l'a fait ou comme certains le font. C'est-à-dire qu'il faut absolument préserver la plante. Et d'ailleurs, on le voit, nous, très bien, depuis qu'on est bio. Ça change dans les vignes. On voit des choses qu'on ne voyait plus. Il y a des nids de perdrix, il y a une biodiversité qui revient. Et ça, c'est quand même très bon signe. Et c'est normal. C'est ce qui devrait être normal.
Et comment ça va se passer après pour le reste de l'été? Est-ce que vous proposez des animations également en parallèle? Il y a des choses, des petits événements plus ponctuels qui vont se produire?
Oui, alors là, on va proposer le 21 août une soirée jazz manouche et fouet, donc à la Grande Vignole. C'est de 17h30 à 21h30 et on peut déguster nos vins lors de cette soirée ou prendre un verre de vin et puis s'installer à l'intérieur, à l'extérieur, où on veut. Juste le temps de passer un bon moment et d'échanger avec nous sur l'histoire du logis, sur le vin, sur tout ce qu'on veut.
Et si on veut retrouver différentes informations, si on veut vous contacter, où est-ce qu'on peut retrouver tout ça?
Vous pouvez retrouver ça sur notre site internet, ou le mieux, c'est de venir nous rencontrer, parce que nous, on aime rencontrer les gens, on aime quand les gens viennent nous voir, et en plus, on a des choses très jolies à leur montrer à la Grande Vignole, donc le mieux, c'est de venir. On est ouvert tous les jours de 10h à 18h, on est une équipe très disponible et qui a très envie de rencontrer les gens.
Et on remettra les informations de contact sur la page de cette émission et effectivement vous pouvez donc y aller directement. Merci beaucoup Christina d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Merci à vous et j'espère vous voir très bientôt à la Grande Vignole.
Pédalo sur Radio Campus Angers.
De retour sur les ondes de Radio Campus Angers, toujours dans le pédalo. À l'instant, c'était Daniel T avec le titre All Tied Up. Et il est temps maintenant de retourner faire un tour du côté des autrices, ce format court proposé par Mathilde Doisy de Radio Campus Paris, en partenariat avec l'association Le Deuxième Texte. Elle nous présente des autrices classiques trop longtemps invisibilisées. Et on parle ce soir, elle nous parle ce soir de Lucie Delarue Mardrus, artiste, comme vous allez le voir, pluridisciplinaire.
Vous êtes l'auteur de cet ouvrage ou
non,
pas?
Je suis l'autrice.
Vous êtes l'autrice?
Du côté des autrices, format court pour grandes écrivaines.
Peut-être que le 21e siècle sera le siècle du retour d'autrice.
Bienvenue dans Du côté des autrices, un format court qui fait de la place aux femmes dans le clan des classiques de la littérature. Elle a laissé derrière elle plus de 70 œuvres, des recueils de poèmes, des romans et nouvelles, ainsi que des biographies, des essais et des récits de voyage. Elle était également journaliste, traductrice, conférencière, sculptrice. En somme, un vrai travail d'acharnée, nom qu'elle avait d'ailleurs retenu pour un de ses romans. Comment se fait-il alors que Lucie de la rue Mardru ne se soit imposée à moi qu'à la faveur d'une bonne pioche sur Internet? Pourquoi n'avais-je jamais entendu parler d'elle auparavant, alors qu'on disait qu'elle formait, à son époque, une éblouissante trinité avec Anna de Noailles et Colette? Lucie de la rue Mardru était pourtant une figure de la belle époque. Elle était l'amie d'André Gide, de Paul Claudel, de Sarah Bernhardt, de Colette ou de Paul Valéry. Mais peut-être qu'elle a pris la poussière parce qu'elle refusait de son vivant les récompenses, à l'exception du prix de son ami René Vivien. Ou parce que les critiques la laissaient dans l'ombre de l'autre poétesse du moment, Anna de Noailles. Ou bien en raison de sa gouaille, de son intérêt fort pour sa province normande ou pour sa description atypique de certains personnages féminins. Rien que les détails biographiques de Lucie de la rue Mardru ont pourtant de quoi intriguer déjà. Née à Honfleur en 1874, Lucie de la rue Mardru a failli se marier avec Philippe Pétain. Heureusement pour elle, ses parents refusent de lui donner sa main. Sa vie devient alors tout autre grâce à son mariage avec Joseph Charles Mardru, un orientaliste, traducteur des Mille et une Nuits. Il l'encourage à se consacrer uniquement à l'écriture, délaisse sa carrière pour présenter ses œuvres à tous ceux qu'il connaît. Leur union tient 15 ans. Lucie de la rue Mardru devient l'amante de plusieurs femmes, en particulier de l'écrivaine américaine Nathalie Barney. Sa première pièce de théâtre ne s'appelait sans doute pas pour rien « Sappho désespérée ». En confinement, j'ai parcouru les rares œuvres romanesques de Lucie de la rue Mardru à portée de ma main sur Internet. Et j'ai été accrochée par la lecture de « Comme tout le monde », son quatrième roman, paru en 1910. Dans « Comme tout le monde », Lucie de la rue Mardru décline le thème de la femme bourgeoise désenchantée par le mariage, thème qui fleurit depuis la publication du « Madame Bovary » de Flaubert. Ce roman de Lucie de la rue Mardru n'a pourtant rien du pastiche. C'est une œuvre à part entière, authentique. Lucie de la rue Mardru y décrit de manière précise, souvent avec cynisme, mais jamais avec grossièreté, la vie conventionnelle de la bourgeoisie provinciale de l'époque, les aspirations perdues des femmes, les mariages imparfaits, les sensations déçues, la vie qui passe sans que l'on s'en rende compte. Elle donne corps à ces existences banales. L'héroïne, Isabelle Chartier, est originaire de Normandie comme son autrice. Sans cesse, elle cherche ce sentiment qu'on appelle le bonheur. Un bonheur qui viendrait la tirer de l'ennui de son existence. Un bonheur qui révélerait que non, elle n'est pas tout à fait comme tout le monde. Elle est tentée par l'adultère, mais craint l'érotisme. Là, Lucie de la rue Mardru montre à quel point son héroïne est emprisonnée dans ses représentations. Isabelle Chartier se tourne alors vers la maternité, s'illusionnant qu'avec un troisième enfant, après l'aîné Zozo et le petit Lion, surnom du deuxième, elle nourra enfin la relation profonde qui manque à son bonheur. Et l'on entre ainsi dans l'intimité d'Isabelle Chartier et de son foyer imparfait, avec cette scène si réaliste, juste après la naissance. Mille petits événements désagréables arrivaient déjà dans la vie du nouveau-né, qui faisaient pleurer la jeune mère énervée. L'enfant était mal, ou bien il avait le muguet dans la bouche, ou bien des rougeurs sur le corps. Il arrivait qu'en le pesant le matin dans la balance de cuisine, au sortir de sa baignoire de poupée, on constatait qu'il n'avait pas assez augmenté. Ensuite, Isabelle eut des crevasses au sein. Après la souffrance capitale de l'accouchement, un nouveau supplice, chose aiguë, martyrisante, renouvelée à chaque tétée. Dans les coins, Léon et sa belle-mère se mordaient les lèvres pour ne pas se dire de choses blessantes devant l'accoucher. On entendait en bas hurler subitement le petit Lion, giflé par Zozo, ou bien se disputer la bonne avec la femme de ménage. Isabelle tendait l'oreille et guettait les visages. Une impatience de se lever pour remettre sur pied sa maison désorganisée la rendait irritable, difficile à soigner. Une dangereuse électricité chargeait l'atmosphère. Mais parmi ce tohu-bohu d'agacement, d'inquiétude, de petites joies, de petits chagrins, Isabelle n'avait plus le temps de songer à ses regrets. Et cette naissance, qu'elle avait voulu au bord de l'adultère, comme un remède à son âme chancelante, était un remède. En effet. Dans ce roman, Lucie de la rue Mardru s'illustre parce qu'elle donne du poids au raisonnement d'Isabelle Chartier, tout en faisant d'elle une anti-héroïne. Elle s'illustre aussi parce qu'elle décrit, comme dans cette scène, ce qu'est vraiment la vie d'une femme, sans détour ni fausse pudeur. La maternité est pour elle une fausse promesse de bonheur transmise par la société, comme elle le rapporte dans d'autres de ses œuvres. Son héroïne est ainsi une mère déçue et imparfaite, qui délaisse ses deux aînés et n'aspire à en avoir un troisième que pour des raisons égoïstes. Malgré ses qualités, Lucie de la rue Mardru a toujours préféré ses poèmes à ses romans. C'est par là qu'elle souhaitait obtenir la reconnaissance après laquelle elle courait. On y retrouve peut-être encore davantage son audace, son parler franc, sa substantifique moelle. Je donne rendez-vous dans l'avenir lointain à ceux qui liront mes poèmes, a-t-elle écrit. Quant à nous, on se donne rendez-vous dans un mois avec une autre femme ayant la force d'une autrice classique. À bientôt!
Et voilà, merci encore à Mathilde Doisy. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les numéros du Côté des Autrices sur le site de Radio Campus Paris. Vous aurez le lien dans la page de cette émission. Il est quant à nous déjà l'heure de nous quitter. On se retrouve demain pour un nouveau pédalo. D'ici là, portez-vous bien. Très belle soirée à toutes et à tous sur les ondes de Radio Campus Angers.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.